pour être soulignée, mais des mouvements de protestation ont éclaté dans plusieurs villes du pays.
Et oui, on a vu à dimanche des foules de manifestants dans les rues de Shanghai, de Pékin, de Wuhan ou encore dans d'autres villes du pays pour dénoncer les mesures anti-Covid. On rappelle que la Chine est l'un des derniers pays au monde à appliquer une stricte politique zéro Covid. Ça implique des confinements à répétition, des tests PCR quasi quotidiens de la population, une population qui en a assez, comme l'exprime cette femme qui manifestait dans les rues de Pékin. Nous ne voulons plus de tests Covid, nous voulons la liberté. Il y a aussi un autre slogan qui est prononcé cette fois par un homme dans cette même manifestation. Écoutez. Lui, il crie « Nous avons une dignité humaine, nous sommes des êtres humains, nous avons besoin de constitutionnalité ». D'autres manifestants, eux, brandissaient silencieusement une feuille blanche, symbole de la censure. Une population donc frustrée par cette politique zéro Covid. Et cette protestation, elle prend aussi un tour politique, c'est ce que nous explique Thierry Kellner, spécialiste de la Chine à l'ULB.
Il y a une très très grande frustration en Chine par rapport donc à ces mesures anti-Covid. Ça va faire bientôt 3 ans donc qu'il y a des mesures qui sont extrêmement fortes, extrêmement fermes. Il y a une frustration qui est là, il y a de plus en plus de scepticisme aussi, je pense, dans la population chinoise par rapport à la gestion donc du Covid. Et les différents épisodes auxquels on a assisté ces dernières semaines, en fait, nous montrent combien la population est en fait mécontente, frustrée, déprimée, finalement, se sent impuissante ou se sent impuissante. Et là, c'est une façon, finalement, d'exprimer son ras-le-bol. Ce qui est intéressant de mon point de vue, c'est que ce ras-le-bol donc, s'exprime aussi par des slogans qui sont, en tout cas pour certains d'entre eux, en contenu politique, puisqu'on a vu des critiques apparaître à l'égard donc, du Parti communiste chinois et à l'égard de Xi Jinping lui-même. C'est très intéressant parce qu'on voit comment cette politique donc zéro Covid et la frustration donc, qui en est née est en train de politiser quelque part, en tout cas une partie de l'opinion en fait en Chine.
Intéressant de phénomène parce que la répression est très forte en Chine, hein, répression contre toute forme d'opposition au gouvernement. Alors pourquoi maintenant ? Eh bien, un événement récent a suscité cette mobilisation. C'est un incendie jeudi dernier dans un bâtiment de la ville de Urumqi dans le Xinjiang où 10 personnes sont mortes. Il y a eu beaucoup de posts qui ont circulé sur les réseaux sociaux en Chine et qui accusaient les mesures anti-Covid d'avoir aggravé ce drame en ralentissant l'arrivée des secours. On a d'ailleurs vu dans plusieurs villes chinoises des veillées d'hommage organisé en plusieurs endroits donc, du pays. Et ça couvrait la manifestation à Shanghai quand il a été arrêté par des policiers. Des images le montrent. Plusieurs policiers le plaquent au sol, le menottent et l'emmènent. Selon la BBC, il a été frappé pendant son arrestation. La chaîne publique britannique dit que les responsables chinois ont expliqué que Ed Lawrence avait été détenu pour son propre bien parce qu'il aurait pu être contaminé par le coronavirus au contact de la foule. Réponse de la BBC. Nous ne considérons pas cela comme une explication crédible. La BBC qui s'est dite extrêmement préoccupée qu'un journaliste soit ainsi attaqué alors qu'il exerce ses fonctions.
Quelle claque ! En deux mots, la dernière heure résume ce match. Une claque que ce score 0-2, une défaite logique tout de même, estime le quotidien en une. La dernière heure qui regrette aussi que cette victoire du Maroc ait été gâchée par des casseurs. Même sentiment en une du soir qui titre lui avec deux mots la tristesse et la honte. La honte parce qu'après ce match, des débordements ont donc éclaté dans le centre de Bruxelles avant de se propager dans plusieurs endroits de la capitale. Près de 200 casseurs s'en sont pris à des véhicules du mobilier urbain ainsi qu'à des membres des forces de l'ordre. Au total, une dizaine d'arrestations administratives et une arrestation judiciaire ont été effectuées. L'avenir qui revient au sport constate ce matin, jeudi face à la Croatie, ce sera tout ou rien. La Croatie a en effet hier soir rejoint la tête du groupe ex aequo avec le Maroc. Le coach Martinez trouvera-t-il des solutions pour battre les vice-champions du monde ? La question est posée.
En 2016, au moment des attentats, les policiers étaient portés, je dirais, en haut de l'échelle. Ça n'a évidemment pas duré très longtemps. Souvenez-vous de la période Covid où, comme nous étions chargés de faire respecter certaines mesures, l'image a été écornée. Et puis lorsqu'on voit le nombre d'agressions, que ce soit verbales, physiques ou autres, qui se font, on voit qu'il y a un vrai manque de respect. Il n'y a plus, je dirais, cette ligne qui empêchait les gens d'agir. Hein. On voit maintenant...
Il n'y a plus le respect de l'uniforme.
Non, il n'y a plus le respect de l'uniforme, mais pas que pour les policiers. On le voit pour nos collègues pompiers, voire même médecins ou d'autres professions. Je pense aussi, je dirais, aux professeurs et autres. Donc on voit qu'il y a un vrai changement, je dirais, dans la population. Et ça, c'est particulièrement interpellant. Éducation, une problématique de respect de la vie humaine, tout simplement. La tolérance zéro... Je dirais, le ministre de la Justice a créé par ses propos une véritable attente. Donc voyons voir, parce qu'on va rester très prudent sur la manière dont cela va être mis en œuvre, que ce soit en termes, je dirais, législatifs ou autres. Et comme je vous ai dit, il va falloir mettre les moyens, le personnel et autres. Donc ça ne va pas être quelque chose de si aisé. Si ça avait été aussi facile de le faire, ça aurait été fait déjà depuis longtemps.
Pense des mots, hein. Golod, faim et mort, fléau. L'Holodomor peut se traduire par famine ou par extermination par la faim. L'Holodomor, selon le bilan de la plupart des historiens, c'est entre 4 et 6 millions de morts. Pour en comprendre l'origine, il faut remonter à la fin des années 20 avec le premier plan quinquennal lancé par le maître du Kremlin, Joseph Staline. Objectif, un développement industriel du pays et pour le financer, une exportation massive des céréales vers l'étranger, ce qui suppose une hausse des rendements agricoles. C'est dans ce contexte que les autorités soviétiques lancent la collectivisation des terres, les fameux Kolkhoz. Pourquoi exproprier ainsi les paysans de leurs terres? Parce qu'ils échappent au système voulu par le Parti communiste. Ils produisent et ils vendent leurs produits. C'est une économie parallèle en somme. Elle permet de faire vivre les campagnes. On n'est pas riche, mais on mange à sa faim dans les campagnes ukrainiennes qui constituent le grenier à blé de l'Union soviétique.
Ouais, autrement dit, Pierre, l'origine du grand malheur qui va s'abattre sur l'Ukraine est politique. Il s'agit pour le régime soviétique de reprendre le contrôle de la production agricole.
Et c'est le début d'un enchaînement fatal. Parce que la collectivisation n'augmente pas les rendements. Au contraire, elle les réduit. Les récoltes sont médiocres, les responsables locaux alertent le Kremlin. Il faut assouplir les règles, faire des concessions auprès des paysans. Au départ, Staline se montre compréhensif, mais en 1932, il change radicalement d'attitude. Si les rendements ne sont pas bons, ce n'est pas la faute au plan quinquennal, mais c'est la faute aux spéculateurs, les koulaks, les paysans contre-révolutionnaires, ennemis du peuple. Les autorités locales sont complices, il faut donc se montrer ferme. Alors, en novembre 1932, une folle répression se met en place en Ukraine. On réquisitionne les stocks chez les paysans, les grains et même les semences qu'ils possèdent. Dans le même temps, on accroît encore les objectifs de rendement de manière totalement irréelle. Ceux qui se rebellent sont impitoyablement déportés au goulag. Mais c'était que le début de l'horreur.
Oui, parce que dans de telles circonstances, la famine s'abat dans les campagnes ukrainiennes et c'est là que débute réellement l'Holodomor, l'extermination par la faim.
Oui, comme il n'y a plus rien à manger dans les campagnes, eh bien ces campagnes risquent de se vider parce que les paysans cherchent à trouver refuge en ville pour trouver de quoi subsister. Mais sur ordre de Staline, on les empêche de quitter leur village. Ils sont interdits de voyager et en quelque sorte condamnés à mourir sur place, par millions. Un ingénieur autrichien qui vit à Kharkiv nous a laissé une vingtaine de clichés glaçants, seul témoignage visuel de la tragédie. Les gens agonisent en rue sans recevoir aucune aide.
4 à 6 millions de morts dans cette Holodomor en 1932 et 1933. Et pourtant, jusqu'il y a peu, on n'en a jamais entendu parler. Pierre, pourquoi?
D'abord parce que ce massacre des années 30 sera gommé de la mémoire collective par ceux encore plus terribles de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, parce que Staline se retrouve dans le camp des vainqueurs de cette Seconde Guerre. Et dans l'opinion mondiale, ça change la perception des crimes entre ceux commis par l'Allemagne hitlérienne et ceux de l'Union soviétique. Il faudra attendre l'indépendance de l'Ukraine pour que la mémoire de cette terrible famine refasse surface. Commémoration, monument, et puis en 2006, le Parlement ukrainien fait de l'Holodomor un génocide.
Alors, génocide mot créé à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour qualifier la Shoah, pour qualifier l'élimination systématique et intentionnelle d'un peuple, est-ce que le terme est approprié pour qualifier cette Holodomor?
En tout cas, il n'a pas été retenu jusqu'ici par l'ONU ni par l'Union européenne. Mais une vingtaine de pays comme les États-Unis et le Canada reconnaissent cette notion de génocide et l'Allemagne s'apprête à le faire. La question est donc controversée, y compris chez les historiens. Certains estiment que cette famine, causée avant tout par l'incompétence d'un régime, ne peut pas être mise sur le même pied que le gazage systématique des Juifs. D'autres, par contre, estiment qu'il y avait bel et bien chez Staline l'intention d'exterminer un peuple, de punir les paysans et en même temps d'éradiquer éradiquer le nationalisme ukrainien. Alors, génocide ou pas, on comprendra que l'agression de l'Ukraine par la Russie de cette année ravive évidemment la mémoire de l'Holodomor chez les Ukrainiens et que beaucoup d'entre eux voient en Poutine le successeur de Staline comme bourreau du peuple ukrainien. Avoutons que par une étrange coïncidence de l'histoire, le terme génocide, il a été créé par un juriste qui s'appelle Raphaël Lemkin, qui est né dans ce qui s'appelait alors Lemberg, qui est devenu aujourd'hui Lviv en Ukraine.
Donc le terme génocide est né en Ukraine.
Absolument.
Allez, merci. La victoire des Lions de l'Atlas et le grand succès du populisme dans les coulisses du pouvoir à 7h43 avec vous Bertrand Haine. Bonjour Bertrand.
Mais bonjour.
Les images des émeutes après la victoire du Maroc face à la Belgique ont été abondamment relayées sur les réseaux sociaux hier, toute la journée, encore ce matin. Les politiques ne sont pas en reste, les condamnations sont unanimes, mais le Vlaams Belang, Bertrand, se détache nettement et trouve ici une occasion en or pour déployer ses idées identitaires.
Oui, décidément, le potentiel viral d'une émeute est puissant hein, quand une trottinette brûle. Il y a des dizaines de téléphones brandis qui filment la scène sous tous les angles et c'est tellement puissant qu'on se demande jusqu'à quel point c'est pas l'envie de publier ses exploits, de claquer un selfie au milieu du chaos qui pousse en fait certains à l'émeute. Mais bref, face à un tel déferlement d'images reprises ensuite largement sur les sites info et les JT, le politique ne peut pas rester absent. Un des premiers à réagir, c'est le bourgmestre de Bruxelles, le socialiste Philippe Claus. Il évoque des voyous, il a aussi dit des crapules dans un JT hier soir. Ils trouveront toujours la police de Bruxelles face à eux pour les empêcher de nuire, ça c'est ce qu'il a dit sur Twitter. Un vocabulaire censé prévenir toute accusation de laxisme par ses opposants, et ça n'a pas manqué. Pour les libéraux, Georges-Louis Boucher évoque des actes scandaleux qui doivent être punis avec la plus grande fermeté, stop à l'impunité, tolérance zéro face aux casseurs. Pour les écologistes, Raja Mawan écrit « Aucune excuse pour le comportement violent des supporters » avec des guillemets, condamnation ferme pour ces comportements inacceptable. Alors d'autres élus, défis ou engagés ont également été en ce sens de condamnation assez ferme. Notons l'absence presque totale du PTB, en tout cas sur les réseaux sociaux, hier, dans cette séquence, rien de la part des comptes officiels du parti et rien de la part des principaux élus. J'ai quand même trouvé une condamnation de la part du député flamand Jos Dass. Bon,
le PTB qui est pourtant très présent sur les réseaux sociaux.
Oui, mais visiblement pas sur cet événement.
Côté flamand, ces images ont aussi beaucoup circulé avec une dimension identitaire plus marquée.
Oui, des événements qui sont vraiment du pain béni, on peut le dire, pour le Vlaams Belang, particulièrement actif. Hein. Le compte officiel du parti a publié une dizaine de vidéos, rien que sur Twitter, mais également sur Instagram, Snapchat, Facebook. Le président Tom Van Grieken a résumé la journée en tweetant « Nous avons un problème marocain ». Voilà. Trafic de drogue, violence, fraude sociale, il a listé tous des voral marocains, des problèmes surtout marocains, dit-il, échec de la société multiculturelle. Le Vlaams Belang qui s'est beaucoup ému lorsqu'un drapeau belge a été arraché à Borgerhout, en banlieue d'Anvers, signe d'une communauté qui détesterait son pays d'accueil. N'hésitez pas à partir, dit Tom Van Grieken en réponse. Intéressant ici de noter, et d'ailleurs plusieurs internautes l'ont fait, que le Vlaams Belang s'émeuve qu'un drapeau belge soit arraché, alors que ce parti n'a jamais hésité à marcher sur ce drapeau lors de cérémonies flamingantes. La NVA, aussi très active hier, avec plusieurs élus qui ont commenté les images, là aussi en n'hésitant pas à poser des questions sur l'immigration, sur l'intégration. Autre dimension assez présente dans les commentaires des nationalistes flamands, la question du laxisme des politiciens bruxellois qui laisseraient faire cette jeunesse. Signalons d'ailleurs sur ce point que des émeutes ont aussi eu ont lieu aussi à Anvers, mais également, c'est moins connu, mais à Amsterdam ou à La Haye, les médias néerlandais parlent beaucoup de ça ce matin.
Ah, des incidents à Liège aussi, exactement. Signalés. Maroc-Belgique, Bertrand, le match était donc aussi politique.
Ah oui, et clairement, les émeutes servent le narratif des partis qui font des questions identitaires une priorité. C'était déjà ce qu'on avait pu observer après un cas d'école, le match France-Algérie d'octobre 2001, où après avoir sifflé la Marseillaise et Zinedine Zidane, les supporters de l'Algérie, pour la plupart français mais d'origine algérienne, avaient envahi le terrain du Stade de France à Paris. Le gouvernement de gauche de Lionel Jospin, qui tablait sur un match de la réconciliation avec sa ministre communiste Marie-Georges Buffet, est apparu comme dépassé par les événements. Et c'est Jean-Marie Le Pen qui avait fait de ce match un symbole de l'échec de la France, Black Bomber, qui avait été victorieuse de la Coupe du Monde en 98. Eh bien, il s'est imposé quelques mois plus tard au deuxième tour de la présidentielle aux dépens de Lionel Jospin. Pas à cause de ça, mais ça a servi son narratif.
Comme quoi le